magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et si l'humanité vivait ses dernières heures ? Au regard des nombreuses crises sanitaires, économiques, politiques qui ne cessent de se succéder, des haines raciales, religieuses, ethniques qui se multiplient sur notre planète, dont l'avenir écologique est de plus en plus incertain, force est de constater que nous sommes sans doute au seuil d'une impasse. Que faire face à cette réalité ? Rêver peut-être, rêver à un monde meilleur et imaginer par la fiction une nouvelle voie à suivre, un autre futur, comme nous le suggère notre invité aujourd'hui, écrivain, éminent, membre de l'Académie française, prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanyos, une fresque nourrie de l'histoire du Liban, votre pays natal. Bonjour Amin Malouf.
Bonjour.
Après plusieurs ouvrages qui constataient l'état catastrophique de notre terre, à l'image des titres de vos livres, Les identités meurtrières, Le dérèglement du monde, Les désorientés, Le naufrage des civilisations l'an passé, voici que vous publiez un roman paru sous le titre Nos frères inattendus aux éditions Grasset. Inattendu en effet, comme votre fiction, qui semble non pas tourner le dos à vos précédentes publications, mais prendre le revers du pessimisme en faisant le pari qu'un miracle va avoir lieu. Vous rêvez, ça veut dire, Amin Malouf, que finalement, il n'y a que le romancier qui peut vraiment rêver et que l'essayiste que vous êtes aussi, lui, en revanche, ne pouvait pas rêver.
Je prends le contre-pied de l'essayiste. Je pense malheureusement que lorsqu'on regarde le monde avec lucidité, on ne peut qu'être extrêmement inquiet. Le monde, pour dire les choses simplement, va dans le mur, dans beaucoup de domaines. Ce qui vient d'arriver de totalement inattendu, cette crise sanitaire qui nous tombe dessus, ça aurait pu être autre chose. On aura d'autres événements de ce type. L'humanité passe par un moment très difficile, il n'y a plus aucune crédibilité morale, aucune autorité morale dans le monde. On ne sait pas où on va. Et donc, le romancier prend le relais en s'inspirant d'une phrase d'un écrivain allemand, Novalis, qui disait « Les romans naissent des manquements de l'histoire. » Et j'essaye de pallier les manquements de l'histoire à travers un événement qui vient de l'histoire des hommes, qui vient de l'histoire de notre civilisation et qui nous permet de transcender ce moment extrêmement difficile, périlleux que nous traversons aujourd'hui.
Mais si vous le voulez bien, n'allons pas trop vite dans cette fable fantastique que vous nous proposez et commençons par planter le décor. Nous sommes aujourd'hui sur une toute petite île française de la côte atlantique, Antioche, qui en fait est le nom d'une cité engloutie entre Ré et Oléron. Je referme la parenthèse, où vit une poignée d'habitants, dont Alexandre, dessinateur canadien reclus, Ève, romancière en manque d'inspiration, qui ne se côtoient pas du tout car ils cultivent l'un et l'autre leur solitude. Mais ils vont se rencontrer à la faveur d'un événement inédit, une panne géante d'électricité, d'internet. Même les ondes deviennent muettes. Plus aucun moyen de communiquer sur aucun continent, au point de craindre le pire, à savoir un accident nucléaire, un cataclysme, voire la fin du monde. Est-ce que cette scène qui ouvre votre roman, Amin Malouf, est une vision de cauchemar pour vous, un épisode qui nous guette à plus ou moins longue échéance ?
C'est en tout cas ce que pense le narrateur, Alec. Il a le sentiment que le monde est au bord du précipice. Et quand, soudain, toutes les communications s'interrompent, il se dit, ça y est, quelqu'un a fait une gigantesque bourde et le monde a peut-être été détruit. Peut-être que nous sommes les seuls, les derniers survivants. Et peu à peu, en enquêtant, en reprenant contact d'abord avec les gens les plus proches sur l'île et dans l'archipel à côté, il commence à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. L'humanité était au bord du précipice et puis il y a eu un événement totalement inattendu, quasiment un miracle, qui s'est produit et l'humanité a été repêchée au dernier moment. Et c'est vrai, j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est vrai que je rêve d'un événement de ce genre où l'humanité qui, comme vous l'avez souligné, passe par une période extrêmement difficile, extrêmement inquiétante, je rêve d'un événement qui puisse la retenir avant le précipice.
Et donc, vous choisissez, Amin Maalouf, une île. C'est presque un petit paradis perdu, d'autant plus que nous avons ce Alexandre qui, en effet, signe ses dessins de Alexander. Ève, évidemment, sa voisine. Ce petit îlot, paradis perdu, disais-je, qui va être rattrapé par le vacarme du monde et ces gens qui essayent de comprendre pourquoi tout s'est arrêté. Et ce mystère va peut-être trouver son explication à la personne d'une communauté étrange, un passeur, puisqu'effectivement, puisque nous sommes sur une île, donc pour aller sur le continent, il faut bien que quelqu'un conduise un bateau, et un diplomate qui, lui, va aller voir la plus haute institution, le président des États-Unis. Deux personnes qui portent des prénoms grecs, Agamemnon et Démosthène, qui, en effet, semblent nourris de la culture antique et particulièrement de cette culture athénienne qui, il y a 2500 ans, était la civilisation idéale à tout point de vue, avant de disparaître. C'est une époque qui vous fascine, Amin Maalouf ?
J'ai toujours été fasciné par le miracle athénien, ce grand moment de l'histoire humaine, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré peut-être 70 ans, 75 ans, et où l'humanité a soudain inventé le théâtre, l'historiographie, un peu la démocratie,
la philosophie,
évidemment, avec Socrate et ses disciples. C'est un très grand moment de l'histoire qui apparaît soudain, rien ne semble l'annoncer avant, et qui, à un moment, disparaît, comme un fleuve qui se perd comme ça dans le désert et s'évapore. Et je me suis demandé, et si ce miracle que l'humanité a pu produire une fois, il y a 2400 ans, si ce miracle pouvait se reproduire ? Si l'humanité parvenait à trouver, à un moment aussi difficile que celui-ci, les ressources de produire une sorte de miracle. Donc c'est un miracle qui ne vient pas de l'espace, qui ne vient pas de
Même si on peut en douter au début.
Il y a une interrogation, mais c'est un miracle qui sort de l'humanité, qui sort de l'histoire de l'humanité, et c'est en cela que il y a dans ce livre peut-être une vision d'espoir.
Et ce qui est très intéressant, Amin Maalouf, c'est que en vous lisant, et vous le confirmez en nous en parlant, votre roman touche au fantastique dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué, quand on est écrivain, de tenir ensemble la réalité et quelque chose qui est de l'ordre de l'irréel? Imaginez qu'un peuple issu de la civilisation grecque aurait parallèlement, souterrainement, sous-maritimement peut-être, survécu et gardé toute cette sagesse, tout ce savoir pour ensuite le proposer à nouveau à nous, petite humanité que nous sommes.
En fait, dans cette fiction, il y a des éléments qui interviennent, qui sont probablement des éléments imaginaires, mais jamais complètement invraisemblables. En tout cas, jamais impossibles. Les deux éléments sont, d'un côté, une population qui évolue parallèlement à notre civilisation. et qui va plus loin. Ça nous paraît impensable. Nous voyons les civilisations autour de nous, nous avons l'impression, ici par exemple, de nous trouver au cœur de la civilisation la plus avancée. Mais on peut imaginer qu'une autre civilisation a pu se développer d'une manière souterraine. Et l'idée qui préside un peu à cette possibilité, c'est que la mer est à travers l'histoire un espace sauvage. Il y a toujours eu des lieux autour des mers du globe qui n'ont pas été contrôlés par les États, par les empires. Donc, on ne peut pas totalement exclure qu'il y ait une sorte de peuple de la mer qui ait pu se développer et qui ait pu porter une civilisation différente. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une chose plausible, mais elle est imaginable.
Et petit à petit, donc, on va comprendre que dans ce monde mis à l'arrêt par un phénomène inexplicable, ces hommes, issus de cette civilisation passée et qui vont être peu à peu rejoints par d'autres, sont là pour aider l'humanité à ne pas chuter. Ce sont donc nos frères inattendus. Est-ce que c'est aussi le miracle que vous attendez, vous, à titre personnel, Amin Maalouf ?
J'ai écrit ce livre, et j'espère qu'on le lira comme cela, j'ai écrit ce livre comme un livre d'espoir. Comment échapper aux réalités qui s'accumulent, qui s'amoncellent, qui nous étouffent. Et là, je me dis, il y a peut-être une voie que l'on peut imaginer. Donc nos frères inattendus sont nos frères inespérés, ce sont nos frères qui portent l'espoir. Et j'ai envie d'y croire. En tout cas, je crois que c'est l'une des mission de la littérature, c'est de maintenir l'espoir. Il faut être lucide et en même temps, il ne faut pas propager le désespoir.
Et dans cette hypothèse que d'ici à quelque temps, voilà, cela nous arrive et que, cauchemar absolu, les ondes se brouillent, je dis ça évidemment en tant que femme de radio et je dis ça aussi pour tous nos auditeurs et auditrices du monde entier avec qui nous avons ce contact privilégié grâce aux ondes. Admettons que les ondes s'arrêtent d'émettre. Si elle recommençait à émettre, Amin Maalouf, en tournant le bouton, quelle est la première chanson que vous aimeriez entendre ?
Quelle musique j'aurais envie d'écouter aujourd'hui ? Certainement une musique qui propage l'espoir, certainement. J'aime bien, par exemple, des musiques qui sont Göttingen de Barbara, par exemple. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est une chanson de réconciliation. C'est une chanson où, véritablement avec amour, on parle de ceux qui, la veille, étaient encore des ennemis et qu'on a envie de prendre dans ses bras en disant qu'on n'est plus ennemis, qu'on est de nouveau amis et que les enfants sont les mêmes à Paris et à Göttingen. J'aime énormément cette chanson.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes, et l'ombre grise de Verlaine, eux. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh, que jamais ne revienne le temps
du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Amine Malouf de l'Académie française avec qui nous parlons de son nouveau roman intitulé « Nos frères inattendus » aux éditions Grasset, la rencontre inattendue, comme on l'a dit en première partie, avec un peuple qui nous ressemble mais en mieux et qui, vivant caché depuis des siècles, a gardé cet esprit de la culture grecque, de sa sagesse et surtout a développé une science qui permet non seulement de soigner les hommes mieux que nos sociétés actuelles, mais aussi de prolonger la vie, voire de la rendre éternelle. Est-ce qu'en effet, c'est cet enjeu majeur pour lequel nous devrions nous battre aujourd'hui? La santé de toutes et de tous sur cette planète, Amine Malouf?
Je crois que la question de la santé qui a été mise au centre de nos vies par cette crise va rester. Je crois que...
Il était temps de s'en rendre compte.
Probablement, oui, probablement. Et je crois que ce n'est pas une parenthèse dans l'histoire. Je crois que la préoccupation concernant la santé, concernant la santé de chacun d'entre nous, et puis la préoccupation globale de santé, ça va rester avec nous indéfiniment.
Mais sachant que vous avez écrit ce roman, bien entendu, avant la déclaration du virus et le confinement qui s'en est suivi, ça a dû vous paraître surprenant quand même que votre roman soit à ce point rattrapé par la réalité.
C'était étrange parce que, évidemment, je l'ai entièrement écrit avant. Quand j'ai décidé de le publier, je l'ai relu. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, il y a des échos avec la réalité que je ne soupçonnais pas. Et cette idée d'avoir un peuple de guérisseurs qui a une médecine beaucoup plus avancée que la nôtre, qui peut nous sauver et en même temps, en nous sauvant, peut nous dominer. Parce que si quelqu'un peut vous donner la santé pour des décennies, pour toujours, vous dépendez inévitablement de lui. Vous ne pouvez pas être complètement libre par rapport à lui, et cette idée du désir d'immortalité qui est à la fois une aspiration libératrice et en même temps peut-être une forme de servitude, ça m'a frappé quand j'ai relu le livre et j'ai senti que par-delà la fiction, il y a une réflexion à avoir sur la place de la santé dans nos sociétés. Aujourd'hui et pour longtemps, pour toujours, je crois.
Et vous, Amine Malouf, vous rêvez d'immortalité, même si, par ailleurs, votre statut d'académicien français vous le donne déjà.
L'académie est très provisoire.
Oui, mais c'est ce qu'on dit. On vous appelle les immortels.
Oui, absolument. Mais je crois que il y a un désir d'immortalité chez les humains. Souvent, ce désir nous le vivons à travers ceux que nous aimons, les enfants, les petits-enfants, plutôt que soi-même. Peut-être qu'un jour, cette donnée va changer. Il y a une possibilité que l'on contrôle le processus de vieillissement. Ça, c'est fascinant et en même temps, c'est inquiétant. Parce que le jour où on pourra véritablement contrôler ce processus, le jour que prévoient certains scientifiques, où on pourra vivre vraiment des centaines ou des milliers d'années, le sens même de la vie va changer. Déjà, qui pourra vivre indéfiniment et qui ne le pourra pas. Et là, cette division qu'il pourrait y avoir un jour dans le monde entre ceux qui échappent à la maladie, à la mort, et ceux qui restent victimes, je pense que ça ferait une cassure profonde, irréparable, douloureuse au sein de l'humanité. Donc, cet aspect des choses, je préfère ne pas trop y penser. D'ailleurs, ce roman ne s'y attarde pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui un jour va se poser. Un jour, l'humanité va certainement mieux contrôler tout le processus de vie et de mort. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit moralement prête à gérer ce genre de savoir, ce genre de pouvoir.
Je fais une petite parenthèse, Amin Maalouf. Quelques semaines après l'apparition de ce virus, qui a été donc nommé coronavirus, voire Covid-19, l'Académie française a préconisé que le genre de ce nouveau mot était féminin et qu'on devait dire la Covid-19. Pourquoi ?
J'ai vu ça et j'ai vu que beaucoup de gens souriaient parce qu'ils se disaient mais l'Académie française, tout ce qui l'intéresse à un moment aussi crucial, c'est de voir si c'est féminin. D'abord, l'Académie ne s'est pas réunie depuis mars.
Alors, donc, qui a décidé ?
Il n'y a jamais eu de discussion autour de cela. Il y a un blog qui est fait par des gens proches de l'Académie qui réfléchissent et qui se posent des questions qui sont des questions d'ordre pratique évidente, c'est-à-dire est-ce qu'il faut dire utiliser tel ou tel terme. L'idée, c'était que Covid est une maladie, puisque c'est un mot anglais qui veut dire disease, à la fin c'est disease qui veut dire maladie, donc il faudrait dire la Covid, mais c'est tout, ce n'était pas un décret de l'Académie.
Reste que dans le langage courant, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement suivi. Ça vous peine, ça, que les recommandations de l'Académie française ne soient pas appliquées ?
Honnêtement,
vous dites quoi,
ce n'est pas essentiel.
Vous dites quoi,
Ce n'est pas essentiel. L'important, c'est que la maladie recule.
Revenons sur le domaine de l'écriture, parce que, on l'a dit, Amin Maalouf, vous avez choisi comme personnages principaux un dessinateur et une romancière en panne d'inspiration, qui de fait d'ailleurs est en grave dépression depuis des années. Je m'attarde une seconde sur Eve. Est-ce que pour vous aussi c'est une angoisse, la page blanche ?
Non, en fait. J'entends parler depuis toujours, évidemment, de la page blanche. Ce n'est jamais une angoisse vraiment pour moi. Moi, l'angoisse a toujours été la gestion du temps. J'ai constamment beaucoup d'idées et j'ai conscience d'avoir trop peu de temps pour transformer ces idées en livres, en textes. Je ne me suis jamais retrouvé devant une page blanche en me disant comment je vais commencer. Ça, je n'ai jamais connu ça. Probablement parce que j'ai commencé ma vie professionnelle comme journaliste et donc je sais gérer la page blanche. Pendant très longtemps, enfin plusieurs années, j'écrivais un article quotidien et je savais que je devais le rendre à 6h. Et même si je revenais du déjeuner à 3h30, je savais que à 6h, l'article sera terminé. Donc il y a une obligation de d'écrire l'article. Et j'ai toujours su que lorsque j'avais un texte, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'aime bien avoir des deadlines, comme on dit dans la profession. Quand j'ai un deadline, je sais que je le respecterai parce que c'est quasiment physique. Je ne peux pas être en retard pour la remise d'un texte. Donc l'idée d'avoir une page blanche en me disant qu'est-ce que je vais faire, non, ça ne m'est jamais arrivé.
Tant mieux. Alors de fait, est-ce que comme Alexandre, qui lui est dessinateur, mais en revanche se met à tenir un journal pour relater ces événements extraordinaires dont il est témoin, est-ce que vous aussi vous tenez, Amin Maalouf, la chronique de votre quotidien ?
Non, j'ai essayé quelquefois de le faire. J'aime bien lire des journaux intimes ou c'est un genre qui me plaît comme lecteur. J'ai essayé plusieurs fois, je vous l'avoue, je ne sais pas, 20 fois dans ma vie de commencer un journal. Je n'ai jamais eu la régularité qu'il fallait pour tenir ce journal jour après jour. Non, je pense que je n'ai pas le tempérament qu'il faut pour un diariste.
Et si vous aviez tenu un journal, Amin Maalouf, qu'est-ce que vous auriez pu écrire à la date du 4 août dernier, lors des explosions à Beyrouth ?
C'était étrange. C'était étrange. J'ai commencé par entendre, comme tout le monde, qu'il y avait eu une explosion extrêmement violente. Et j'ai commencé à regarder des images et ça ressemblait à rien. On aurait dit une petite explosion atomique avec ce champignon. Et j'ai commencé à appeler mes proches à Beyrouth. Évidemment, comme il n'y avait pas de matière radioactive, ça n'a pas eu l'effet d'une bombe atomique, mais ça restera comme un moment symbolique de la crise du Liban. C'est un pays qui souffre beaucoup, qui a des problèmes dans beaucoup de domaines, des problèmes de gestion politique, avec une classe politique corrompue et incompétente, avec des problèmes économiques gigantesques. C'est un pays qui, après avoir été le centre culturel, médiatique, financier de sa région, est aujourd'hui en train d'essayer de survivre dans des conditions terribles, avec un appauvrissement des gens, toutes les classes moyennes qui sont pratiquement anéanties. Je crois que si c'était une explosion dans un pays qui se porte bien, on l'aurait oublié au bout d'un certain temps. Mais là, elle est devenue un moment emblématique, un événement emblématique qui résume en 3 secondes le drame d'un pays si prometteur et qui n'a pas pu tenir toutes ses promesses. Donc, je regarde cette région du monde et aussi quelques autres avec inquiétude, avec tristesse, même si je ne perds pas espoir.
Donc retrouver la fraternité qui est au cœur de ce nouveau roman que vous nous proposez aujourd'hui, Amin Maalouf. En effet, un roman qui regarde vers le ciel et qui nous encourage à rêver et à dépasser toutes ces colères, toutes ces trahisons.
Un roman qui veut maintenir l'espoir.
Et on vous en remercie. Je rappelle le titre « Nos frères inattendus » qui est apparu aux éditions Grasset.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.